Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Saluton al ĉiuj. Bonjour à tous. Bienvenue dans Saluton, émission consacrée à l'espéranto. Nous écoutons aujourd'hui la deuxième partie de l'interview de Mireille Grosjean, une de ses responsabilités au niveau mondial et l'organisation d'examens d'espéranto. En effet, l'espéranto est maintenant évalué de la même façon que les autres langues, en respectant les critères définis par le cadre européen des langues.
Veux-tu parler également d'une autre de tes responsabilités, l'organisation d'examens?
Oui, alors les examens dans le monde de l'espéranto sont actuellement en mutation, parce que nous avons un système dit traditionnel créé par ILEI UEA, c'est-à-dire ILEI, la Ligue mondiale des profs, UEA, l'Association universelle d'espéranto. Alors, il existe un règlement tout à fait détaillé, et ces examens ont lieu, il y a des sessions qui ont lieu dans différents pays du monde. On a une liste qui s'appelle Internatia Raitigita Examinantaro, c'est-à-dire on a une liste d'examinateurs patentés, homologués. On en a maintenant entre 110 et 120 dans le monde entier. Et ces gens sont habilités à former la Loca Examina Commissiono, donc la commission locale quand il y a une session. Et c'est ces trois personnes qui vont organiser l'examen, installer les chambres, les tables, les chaises et les crayons, et ensuite corriger, ce qui est un grand travail. Je suis présidente de la Commission mondiale des examens, donc je supervise le travail de gens qui rédigent les tests. Par chance, je ne dois pas tout rédiger toute seule, c'est un énorme travail, parce qu'on a le niveau élémentaire, le niveau moyen, et on a aussi différents tests. On a le test grammatical d'abord, qui est éliminatoire, puis ensuite on a différentes tâches à l'écrit, et on a évidemment aussi un oral. Donc tout ce travail, c'est moi qui le coordonne.
Voilà, et tout ça est donc extrêmement sérieux, et il y a donc un nouveau système à l'heure actuelle qui est mis en place.
Voilà, il se trouve que le Conseil de l'Europe, qui regroupe tous les États du continent européen, qui est situé à Strasbourg, lui a fait un cadre européen des langues, et ce cadre européen des langues a fixé 6 niveaux de compétences qui s'appellent A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et actuellement, si quelqu'un cherche un emploi, on va lui demander de noter ses connaissances linguistiques selon ce système. Donc quelqu'un va dire « je suis C2 en français », ça veut dire locuteur natif, c'est sa langue maternelle. Et puis, il peut avoir un B1 en allemand, un C1 en anglais. C'est comme ça, de plus en plus, et même hors d'Europe, que les gens aiment évaluer, parce que c'est très pratique, c'est très précisément défini. Ce qu'il faut arriver à faire pour avoir B1, ou ce qu'il faut arriver à dire ou à comprendre au niveau B2 ou au niveau C1. Donc, ce travail, cette échelle, a été traduite par une équipe dirigée par Katalin Kovacs en très peu de temps pour que ce document qui sert maintenant de base à Strasbourg sur l'espéranto, qui est une des 20 ou 30 langues qui est déjà entrée et qui a été accréditée auprès du Conseil de l'Europe, maintenant l'espéranto y est aussi, ça c'est maintenant vraiment homologué, on est l'espéranto au Conseil de l'Europe exactement comme le portugais, l'espagnol, l'italien, le russe. Il y a même l'arabe, le japonais et le coréen qui sont aussi là-dedans. Donc, et il y a des contacts avec les USA. Ça devient, ce cadre européen des langues, gentiment quelque chose de mondial. Donc, ce nouveau système se calque sur le cadre européen des langues et en plus, on a réussi à avoir un contrat de collaboration avec le Centre national des examens à Budapest, en Hongrie. En Hongrie, les étudiants peuvent choisir français, allemand, anglais, espéranto et d'autres choses. Et le Centre national produit les examens pour l'espéranto selon ce cadre européen des langues. Si bien que le grand succès de toute cette opération, c'est que on peut recevoir maintenant des diplômes d'espéranto qui sont homologués, reconnus par un État, donc pas à l'intérieur de nos structures du mouvement espérantiste, mais par un État, et étant donné que la Hongrie est dans l'Union européenne, la validité de ce papier s'étend à toute l'Union européenne.
Très bien. Et quels sont dans le monde, peut-être en commençant par l'Europe, les autres pays qui ont officialisé l'espéranto d'une manière ou d'une autre ?
Alors, j'ai entendu récemment qu'il y avait une officialisation en Italie, et en fait, on doit avancer très lentement, parce que les gouvernements et toutes ces structures sont très rigides et sont conservatrices, donc on ne peut pas tout bouffer d'un coup. Alors, moi, il me semble très important que les gouvernements admettent que s'il y a de la demande, et s'il y a des enseignants présents, des cours puissent avoir lieu dans des locaux scolaires hors période scolaire. Ça, c'est un premier pas qu'on devrait pouvoir atteindre dans différents pays. L'année prochaine, je vais aller au Burundi, et les Burundais, qui sont très avides d'apprendre l'espéranto, vont m'utiliser pour aller voir les instances gouvernementales et la commission burundaise pour l'UNESCO pour essayer de faire avancer tout ça. Évidemment, il semble que ma présence va donner plus de poids à leurs négociations. J'ai une manière d'aider en Afrique aussi, c'est que j'ai une lettre type dans mon ordinateur. Comment on s'adresse à la Commission nationale pour l'UNESCO, puis ça m'est déjà arrivé d'enlever Burundi puis de mettre Sénégal. Et puis, c'est clair que si au Sénégal, ils emploient le même texte qu'au Burundi, il n'y a aucun problème. Les ministres entre eux ne vont pas discuter et comparer les versions. Ce sont des choses que je peux mettre à disposition. Et puis, eux, ils changent le nom de leur association, le nombre de membres, le lieu du siège, et puis ils emploient le même document. Donc là, on peut vraiment beaucoup aider.
D'accord. Il y a aussi le Brésil.
Oui, au Brésil, il se passe pas mal de choses. C'est très intéressant au Brésil. Il y a une communauté très vive, très active. Et puis, il y a maintenant une reconnaissance qui est mise au point. Je ne sais pas si c'est déjà voté, mais au niveau du Parlement, il y a des projets qui sont très intéressants. Mais je ne suis pas 100% au courant, donc je ne peux pas en parler.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Mireille.
Merci.
Resonos la cant pri tempo c'è risa, cai cun nightingale la mo canta merl, festado sen fine. Ec floros petol en capo e knabina, cai brilos la sun e l'onanta cor. Resonos la cant pri tempo c'è risa, cai fai fosse ne fin, l'ammo canta merl.
Un peu de nostalgie, ça ne fait pas de mal, grâce à la belle voix de Nicoline. Elle nous chantait la Tempo Cerisa, le temps des cerises. C'est maintenant l'heure du cours d'espéranto avec Dorothée et Pierre.
Ĉu vi estas pretaj komenci la deksesan lecionon? Êtes-vous prêt à commencer la leçon numéro 16?
Yes. Mi estas pretaj.
Yes, pretaj. Lors de cette 16e leçon, nous allons revenir sur l'accusatif. L'accusatif, vous savez qu'il est marqué par la lettre
N.
N, très bien, à la fin d'un mot. Nous l'avons vu comme complément d'objet direct. Par exemple, mi manĝas pomon. Eh bien, voici une autre manière d'utiliser l'accusatif. Première petite phrase, sans accusatif. Qui est vi estas? Qu'est-ce que ça signifie? Qui est vi estas?
Où es-tu?
Où es-tu? Mais je n'ai pas le droit de dire qui est vi iras? Enfin, j'en ai le droit, mais c'est une faute grammaticale en
oui,
espéranto.
Oui, parce que c'est une direction, c'est un changement d'endroit, donc vers où vous allez, donc qui en?
Voilà, donc Dorothée.
Vi iras.
Dorothée connaissait parfaitement cette nouvelle utilisation de l'accusatif. Indique effectivement un mouvement, on peut l'appeler accusatif de destination. Donc, on ne doit pas dire « quie vi iras », mais « quien vi iras ». On peut considérer que cet accusatif remplace la préposition « al » qui désigne un mouvement. « Al quie vi iras ». Bonne volule, Guy.
Apud la rivereto, oni vidas canoin, tendon, kai fairon.
Tre bone. Apud la rivereto.
Près du ruisseau.
Voilà, très bien pour ruisseau, parce qu'effectivement, rivereto, il y a ce suffixe diminutif qui nous dit que c'est une petite rivière. Le mot français ruisseau existe, donc employons-le, parfait. Donc, à côté ou près de du ruisseau, oni vidas canoin.
On voit des roseaux.
Des roseaux, ça nous fait penser au français canne. Donc, oni vidas canoin, tendon.
Des tentes.
Au singulier, tendon.
Ah oui.
Une
tente.
Mais gravas.
Elle est incorrigible.
Alors ça, tu sais.
Pierre, tu es dur. Tendon, une tente.
Une tente. Kai,
fairon.
Et du feu.
Et du feu. Ah. Très bien. Fire en anglais ou en allemand, Dorothée?
Feuer.
Feuer. Et en hollandais?
Vuur.
Ah, voilà. Donc, effectivement, c'est la même racine hein, pour ces trois langues. Dankon. Merci.
Carlo. Jus ricevis letteron el Parizo.
Alors, il y a peut-être c'est pas jus, c'est jus, le j accent circonflexe, jus et Parizo, ne Parizo, Parizo.
Parizo.
Voilà, tu as un petit peu prononcé à l'italienne, me semble-t-il. Ne gravas. Donc, Carlo jus ricevis.
Carlo vient de recevoir.
Très bien. Letteron.
Une lettre.
El Parizo.
De Paris.
Voilà. El, c'est l'origine de la lettre.
Li malfermis la coverton, kai tui legis laute la letteron.
Bonne. Li malfermis la coverton.
Il a fermé l'enveloppe.
Le contraire de fermer.
Ouvert.
Yes. Il a ouvert l'enveloppe. Kai tui.
Et tout de suite.
Legis laute la letteron.
Il a lu à haute voix la lettre.
Très bien. Donc nous venons de voir deux petits mots. Jus pour un passé récent. J chapeau U S. Passé récent. Et tui T U J pour un futur très proche. Pour dire tout de suite. Li malfermis la coverton, kai tui legis laute la letteron. Donc le tui peut indiquer un futur très proche ou encore traduire aussitôt. Ici, il a aussitôt lu à haute voix la lettre. Laute pour dire à haute voix.
Parizo.
Parizo.
Parizo. Ah oui, même chose. Parizo, la quaran de aprilo.
Paris, le 4 avril.
Voici encore un nouvel accusatif. Il y avait donc le complément d'objet direct qui vous est maintenant très familier. Il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, le complément de destination qui indique la destination d'un mouvement. Et en voici un troisième. Parizo la quaran de aprilo. Cet accusatif économise une préposition qui indique le temps. On pourrait dire ie la quara de aprilo. Le 4 du mois d'avril, ou le quatrième jour du mois d'avril, ce N économise la préposition IE, qui situe dans le temps. On pourrait aussi parler de la proposition DUM, pour dire pendant.
Li possedas grandan collecton da documentoi.
Li possedas, il possède, grandan collecton, une grande collection, da documentoi, de documents.
Très bien. Et on voit que notre de, collection de documents, est traduit ici par da. Lorsqu'il s'agit d'une quantité. Il faut donc éviter de dire collecton de documentoi, mais il faut absolument dire collecton da documentoi. Par exemple, on pourrait dire une dizaine de documents deco da documentoi. DECO, DEC avec le chiffre 10, DEC. Oui. Donc, si je veux dire il possède une dizaine de documents, li possedas decon da documentoi.
Et avec multa, ce serait pareil.
Multeda.
Multeda. Oui.
Très bonne remarque, nous connaissons effectivement déjà multeda. Oui. Très bonne remarque, Dorothée. Li possedas multe da documentoi. Donc, effectivement, nous avions déjà l'habitude d'employer ce da avec multe.
Li interessigas pri la kutimoi, la vivi, la viv manieroi de la homoi, kai pri teknikai progressoi.
Voilà, alors c'est une phrase qui est un petit peu difficile à prononcer, il y a quelques difficultés. Li interessigas, hein, j'ai un chapeau sur le G. Donc, li interessigas, Pierre.
Il s'intéresse.
Pri la kutimoi.
Aux coutumes, au pluriel.
Yes. La vive manieroi.
La vive manieroi, les modes de vie.
Très bien. De la homoi.
Des gens.
Kai pri technicai progressoi.
Et aux progrès techniques, au pluriel encore.
Très bien. Voilà, bien prononcé, bien traduit, Pierre. Li interessigas. On trouve une terminaison ig, le suffixe ig, que l'on peut décomposer en disant li ijas interessa. Il devient intéressé.
Intéressé, oui.
Donc il s'intéresse. C'est la façon de traduire le verbe français pronominal s'intéresser. Pri la kutimoi. Alors cette nouvelle préposition pri signifie au sujet de. Il s'intéresse à quel sujet? Aux coutumes. À quel autre sujet? La vive manieroi, les manières de vivre, ou comme tu l'as très bien dit, les modes de vie des gens. La homoi au pluriel, ce sont les êtres humains au pluriel, pour nous ça sera les gens. Kai pri technicai progressoi, il s'intéresse au progrès technique.
La interessoi de Johannino estas modo. Kai natur sciensoi.
Sciensoi. Voilà. Il y a quelques difficultés effectivement de prononciation dans ces phrases. La interessoi de Johannino.
Les intérêts de Johannino.
Oui, c'est-à-dire Jeanne, oui. Estas modo.
Mode.
Sont la mode.
La mode.
Kai natur sciensoi. Natur sciensoi. Les sciences
naturelles.
Voilà, les sciences de la nature, donc les sciences naturelles. Alors la difficulté de prononciation, scienzo, S suivi de C, il faut entendre S, T, S, scien.
Oui.
Et ensuite, il y a un nouveau C, tso, scienzo. Et si on forme le mot composé avec, en mettant devant stienzo naturo, eh bien, on prononce naturo stienzo ou même natur stienzo.
Si collectas floroin kai insectoin.
Yes.
Si collectas, elle fait collection. Floroin de fleurs kai insectoin et d'insectes.
Très bonne.
Si chatas ricevi postcartoin, elle a tutto mondo.
Elle a
tutta mondo.
Bonne.
Si chatas ricevi. Elle aime bien recevoir postcartoin, des cartes postales. Elle a tutto mondo, du monde entier.
Très bien prononcé, très bien traduit. Postcartoin, donc la poste, ça s'écrit. Ça se dit posto et ça s'écrit P-O-S, chapeau, T-O. Si on oublie le chapeau, on pense à poste, qui veut dire après.
Ah oui, et là il faut mettre le chapeau.
Voilà.
Chafaro iras sur granda herbeio apud arbaro.
Chafaro. Chafo, c'est un mouton.
C'est un mouton. Les moutons vont dans le pré, on dit en français, la grande herbeio.
Oui, sur une grande prairie, sur un grand pré.
près des arbres, près de la forêt.
Près de la forêt, oui.
Bon,
ouais.
Alors, Chafaro. Chafo, c'est un mouton. Aro est un nouveau préfixe qui signifie effectivement un groupe, un ensemble. Chafaro, c'est donc un ensemble de moutons, c'est-à-dire un troupeau de moutons. Pour les arbres, on ne dira peut-être pas troupeau. Arbo, c'est un arbre. Arbaro.
C'est un bois ou une forêt. Là.
Voilà, c'est un ensemble, j'allais dire, une troupe d'arbres. Donc, un ensemble d'arbres, c'est-à-dire un bois ou une forêt suivant la taille. Herbeio, nous connaissons déjà le suffixe eio qui donne le lieu. Donc, herbeio, c'est un lieu où il y a de l'herbe. Il y a deux mots français pour traduire cela. Pré ou prairie.
La pastisto. Havas venturelieton. Venturelieton.
Yes. La pastisto, Pierre.
La pastisto, le berger ou le pâtre ou le pasteur.
Effectivement, le pasti, c'est faire paître des animaux. C'est un verbe transitif. Pastisto, c'est celui qui fait paître, celui qui envoie paître, si vous préférez, les animaux, les moutons, les vaches, etc. Donc c'est un pâtre, c'est un berger ou c'est un pâtre. Ça ressemble effectivement davantage au mot français pâtre. Havas veturileton.
Ah, une petite voiture, on pourrait dire.
Effectivement,
mais veturilo. C'est pas une voiture à moteur.
Pourquoi pas? Donc, dans le dessin, non, mais veturi, c'est se déplacer en voiture, à vélo, en train. Oui. Veturilo, c'est l'outil pour cela, donc c'est un véhicule, motorisé ou pas. Veturileto, c'est un petit véhicule.
Mal proxime estas fulmotondro. Oni vidas fulmoin. Kai oni audas tondron.
Bonne. Mal proxime, Dorothée.
Tout près.
Mal proxime, le contraire de proxime.
Au loin.
Eh oui, au loin, voilà. Mal proxime. Alors, c'est un des avantages de l'espéranto.
Je suis mal branché.
C'est... Tout à l'heure, il y a aussi l'inverse. Mal ferme.
Oui.
Donc, c'est un des avantages de l'espéranto. De dire tout et son contraire avec le préfixe mal. Donc mal proxime veut dire au loin.
Au loin.
Estas fulmo tondro.
Il y a l'orange.
Exactement. Fulmo l'éclair, tondro le tonnerre. Oni vidas fulmoin.
On voit les éclairs.
Des éclairs. Kai oni audas tondron.
Et on entend
le tonnerre.
Le tonnerre,
voilà. Le tonnerre de Brest. Et on entend le tonnerre. Très bonne.
Neigas. Multae negeroi falas.
Alors voici un nouveau suffixe en fin de phrase. Neigas.
Il neige.
Yes. Multae negeroi falas.
De nombreux flocons.
Oui.
Tombe.
Très bien. Ero, c'est le suffixe pour donner pour dire l'élément. L'élément d'un ensemble. Donc, neggio, la neige. Neggero, c'est un élément de neige. Pour nous, c'est un flocon. Sablo, c'est le sable. Sablero, c'est un élément de sable, donc un grain.
Oui.
De même, salo, c'est le sel. Salero, c'est un grain de sel. Voilà, vous pouvez apporter votre grain de sel à cette conversation.
Neja, castillo, cristallo, espetas tiel, kiel bela steleto.
Bonne. Alors, neja, cristallo, aspectas, Pierre.
Le cristal de neige.
Un cristal de neige.
Ressemble.
Aspectas tiel, kiel.
A le même aspect.
Bella steleto.
Une belle petite étoile.
C'est bien ça, ouais. Tu as raison. Donc, aspectas tiel, virgule, kiel.
à l'aspect d'une belle petite étoile, stello, une étoile, stelletto, une petite étoile, donc un cristal de neige à l'aspect de, ou à le même aspect que, ou ressemble à, diverses traductions sont possibles.
Fairo brulas en ciu domo.
Fairo.
Le feu brulas en chaque maison.
En ciu domo, dans chaque maison. Très bien. Ciu au singulier, chaque. Ciui au pluriel, tous ou toutes. Bonne.
Estas multae saleroi en la saluio, sed malpli da moneroi en la monuio.
Tre bone. Estas multae saleroi.
Il y a beaucoup de sel.
Salero, donc c'est élément de sel. Ero, élément.
Beaucoup de grains de sel.
En la saluio.
Dans la salière.
Voilà. Et multae, mot à mot, c'est de nombreux. Mais tu peux traduire, multae est synonyme de multe da, c'est-à-dire beaucoup de.
Ouais.
Nombreux ou beaucoup de. Donc, estas multae saleroi en la saluio, sed malpli da moneroi.
Mais peu de pièces de monnaie.
Très bien. En la monuio.
Dans le porte-monnaie.
Parfait. Alors, dans cette phrase, il y avait deux fois, pour le sel et pour l'argent, les suffixes ero et uio. Ero, c'est un élément, donc un élément de sel, c'est un grain de sel. Uio, c'est le contenant, donc le contenant du sel, c'est la salière. Pour le porte-monnaie, eh bien, dans le porte-monnaie, il y a moneroi, des éléments d'argent, donc des pièces de monnaie. Et le porte-monnaie lui-même, monuio, c'est le contenant de l'argent. Dankon.
Merci à tous et à bientôt. Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis.